Tous les jours à 12h15 et 19h15,
Je vous dis pas,
votre magazine d'information locale.
Aujourd'hui dans Je vous dis pas, jeudi 13 mai, on accueille Sébastien Chauvet, secrétaire du comité local des pêches de l'Île-Dieu, Bernard Groisard, patron pêcheur en retraite, et Michel Charreau de l'association Lieu de Main. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour.
On va faire aujourd'hui un petit point sur le projet éolien entre l'Île-Dieu et Noirmoutier. Il y a eu deux réunions de concertation. Quand ont eu lieu ces réunions?
Alors, ce sont donc deux réunions qui ont été organisées par, d'une part, le préfet de région Pays de Loire et, d'autre part, le préfet maritime, avec la participation aussi du préfet de la Vendée. Donc, ces réunions ont eu lieu en décembre et en janvier. Elles étaient...
Décembre et en janvier.
Alors, décembre 2009 et janvier 2010.
Voilà. D'accord.
Elles étaient rendues obligatoires par une décision qui avait été prise par le ministre Borloo. En ce qui concerne l'implantation de parcs éoliens en mer, qu'il y ait toute une concertation qui soit faite en préalable avec l'ensemble des parties prenantes des usages de la mer pour déterminer les zones les plus propices à l'implantation de ces parcs éoliens. Donc, il s'est passé en Pays de Loire ce qui s'est passé en Bretagne, ce qui s'est passé en Normandie, ce qui s'est passé en Aquitaine, en Charente-Maritime et sur les côtes de la Méditerranée. Donc, il y a eu ces deux réunions qui ont lieu à Nantes et à laquelle ont participé 150 personnes.
150 personnes.
150 personnes qui représentaient, je veux dire à peu près, quoi. Oui. Il y avait qui? Il y avait l'ensemble des représentants des préfectures, des directions régionales et services de l'État concernés, les deux conseils généraux, donc de Vendée et de Loire-Atlantique, les principales communes du littoral et des communautés de communes, les chambres de commerce et le pôle industriel de Saint-Nazaire, l'ADEME, donc c'est l'association pour la défense de l'environnement, des universitaires et des grandes écoles, les professionnels de la mer, comité des pêches, coopératives maritimes, port de Saint-Nazaire, les centres de recherche sur le milieu marin, IFREMER, CNRS, Météo France, l'IGN, l'aviation civile, les fédérations sportives liées à la mer, dont la plaisance, les fédérations de chasse, les associations de protection et de défense de l'environnement, dont la Ligue de protection de l'environnement, l'ADEV, les Amis Noirmoutier, 12 sur 12 et Yeux de Main, une association anti-éolienne, NENI, les extracteurs de sable, les producteurs d'énergie électrique, EDF, RTE, GDF Suez, et les développeurs de projets de production d'énergie renouvelable, ce qui faisait donc énormément de monde qui était réuni.
Et il y avait une délégation ilaise.
Donc il y avait une délégation ilaise qui était bien nourrie, puisqu'il y avait Bruno, nourri.
Le maire de l'Île-Dieu.
Sans jeu de mots. Il y avait donc le comité des pêches avec Éric Tarot, donc son président, et Sébastien Chauvet, donc secrétaire du comité des pêches. Il y avait Bernard Croisard qui était présent, et il y avait Yeux de Main avec d'une part Alain Ozillot, président, et moi-même. Voilà.
Et vous étiez reçu par qui?
Alors donc, ça se passait à l'école centrale de Nantes, et il y avait donc à la tribune, donc c'était dans un grand amphithéâtre, et il y avait donc à la tribune le préfet de région, le préfet maritime, le préfet de la Vendée et tous les grands services donc de l'État. Il faut savoir aussi que ce travail avait été mis en ligne également et donc nous avons pu intervenir entre les deux réunions pour apporter l'ensemble des questions que nous voulions poser. Donc il y a eu un débat écrit et un débat oral extrêmement riche. À l'issue donc de ces deux débats, le préfet de la région maritime et le préfet de la région Pays de la Loire ont considéré que l'ensemble des expressions avaient pu se faire et que grosso modo, il n'y avait pas eu d'opposition majoritaire, que l'ensemble des présents avaient pu s'exprimer. Et donc, il a fait remonter au ministre dont Borloo, donc au gouvernement, un accord général des participants, ou au moins une non-opposition
à ce projet.
Ce projet. Alors, savoir que, au niveau, là, c'était pas sur le projet en même, c'était sur la détermination des zones de développement. Donc, il y avait deux zones qui ont été retenues. D'une part, une zone, donc, située au large de l'Île-Dieu, au large de Noirmoutier, qui est la zone qui nous concerne, nous, à peu près à 15 km de chacune des îles, au nord, donc, de Lisieux et à l'ouest de Noirmoutier. Cette zone-là a fait l'objet de peu de contradictions, de peu d'opposition, sauf bien sûr l'expression du Conseil général de la Vendée et de Nenni. Voilà, c'était
l'association.
Oui, l'association, voilà. Et puis ensuite, par contre, la zone, il y a une zone qui se situe au nord de l'estuaire de la Loire, au large de la Baule et du Croisic, pour lesquels un travail complémentaire doit être fait avec le comité régional des pêches. Son président Hugo Trey était là, et donc là la zone est retenue sous réserve d'un approfondissement ultérieur qui doit être fait avec le comité régional des pêches.
Point de vue de l'environnement, alors y aura-t-il des soucis, ou tout le monde était d'accord pour dire que ça n'avait pas posé de problème, même sur la navigation, etc., etc.
Bah, y a eu, si vous voulez, un ensemble de questions qui ont été posées. Ces questions, je vais vous les résumer.
Exactement, oui. On laissera peut-être la parole à Sébastien Chauvet aussi.
Tout à fait.
Et Bernard Goisard.
Tout à fait. Les questions essentielles, ça a été tout ce qui concernait les retombées économiques.
Exactement. Alors,
ça, on en parlera. Je donne toutes les différentes questions.
D'accord.
Il y a la présence des sémaphores et des radars. Il y a les ouvrages de raccordement au continent. Il y a le positionnement sur la zone Natura 2000. Il y a les risques liés à l'affouillement des fonds marins. Il y a tout ce qui a trait aux circulations maritimes côtières et d'accès au chenal de la Loire. Il y a l'usage de la plaisance. Il y a la pêche et les techniques de pêche autorisées. Il y a les impacts sur les ressources halieutiques. Il y a tout ce qui a trait aux oiseaux. Et il y a les vitesses des vents qui sont plus fortes et beaucoup plus stables en mer. Voilà, c'est sur toutes ces questions-là qu'il y a eu des questions.
Une large thématique tout de même.
Très très large. Voilà.
Alors que peut-on dire du point de vue de la pêche, Sébastien Chauvet ?
Alors concernant le comité local des pêches, je vais rappeler simplement la délibération qu'a prise le comité local des pêches sur cette question, donc le 24 avril 2009. Et donc après plusieurs réunions avec les pêcheurs, le comité local a pris un avis, le conseil du comité local des pêches de l'Île-Dieu n'émet pas d'avis de principe défavorable au projet. Donc, par contre, nous y avons mis quelques conditions, bien sûr, notamment les études d'impact, nous en reparlerons tout à l'heure. Mais la position du conseil, du comité local et la position du conseil municipal, c'est pas d'avis défavorable, mais un niveau d'exigence important pour pouvoir, à la suite des études d'impact, accepter le projet.
Sur quel point de vue, alors, exigeant ?
Écoutez, en termes de paysage, en termes d'études environnementales, sur les oiseaux, sur la biomasse, sur les courants, etc. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent, mais c'est un dossier qui est très technique. Et je veux dire, il n'y a pas la place pour le passionnel dans ce type de projet. On parle aussi que de la navigation, etc. Donc, je passe la parole à Bernard Goisard. Mais tous ces thématiques ont été vraiment approfondies. Et justement, les études d'impact qui sont faites non pas par, qui sont à la charge de l'entreprise du développeur, sont faites aussi par des entreprises qui sont elles indépendantes et qui nous diront, la vérité sur tous ces.
On aura des réponses quand ?
On aura des réponses bientôt. Voilà, je reparlerai tout à l'heure.
Bernard Groisard, point de vue de la navigation, des bateaux, de la pêche.
La pêche, vous savez qu'elle a beaucoup souffert à l'Île-Dieu, comme dans beaucoup de ports de France. Avant de parler de navigation, je parlerai de l'impact que peut avoir ce projet, s'il voit le jour, pour le port.
Oui.
Pour le port, Saint-Nazaire, bien sûr, est le site idéal, qui veut se reconvertir un peu en partie, pour construire, mettre en place, remplacer, changer les vieilles éoliennes lorsque viendra le jour. Donc le chantier de Saint-Nazaire est intéressé. Nous, à l'Île-Dieu, par contre, en Vendée, puisqu'il n'y a que deux départements Pays de Loire, nous espérons récupérer la maintenance d'urgence. C'est-à-dire, si le projet voit le jour, il y aurait environ 3 bateaux de placés en permanence à l'Île-Dieu, dont un opérationnel 24 heures sur 24, avec des équipages, peut-être des ingénieurs, pour faire des réparations urgentes.
Et ça, c'est sûr et obligatoire ?
C'est une exigence, ça existe dans les autres endroits. Okay. Et nous, à l'Île-Dieu, on dit on veut bien, mais on veut des retombées. Notre port en a besoin.
Exactement.
Par contre, pour la navigation, je réponds à votre question.
Oui.
Il y en a qui mettent en avant la navigation. Malheureusement, ce ne sont pas des marins. Vous savez que le parc, je vois la carte sous les yeux, il est placé sur des fonds rocheux, non chalutables. Seul le pélagique peut chaluter au-dessus. Il sera donc interdit au chalutage. Ce sera donc une zone de reproduction. Si dans les contraintes qu'évoquait Sébastien Chauvet, le comité local réussit à faire mettre à la base de chacune des éoliennes quelques éléments soudés, comme au Japon, qui pourront servir de rochers artificiels, cela voudra dire que sur 100 éoliennes, il y aura 100 récifs artificiels posés gratuitement. Ça coûtera beaucoup moins cher que le ou les deux récifs en béton qu'on a mis il y a 5 ans, qui sont très bien, mais qui coûtent une fortune. Pour la navigation, le parc a été situé à 1 mille au sud de la Bouée des Bœufs, pour permettre au cabotage, qui vient de Saint-Nazaire, de ne pas être obligé de faire le tour du parc.
D'accord.
Pour venir vers l'Île-Dieu, vers Bordeaux, vers les Sables d'Olonne. Quant à dire que les marins seraient gênés, vous savez qu'en dedans des 5000 des côtes, c'est ce qu'on appelle de la pêche côtière, de la navigation côtière. 5000, ça fait environ 9 kilomètres des côtes.
Mm-hmm.
Mais déjà, à 5000, tout le monde a un GPS, tout le monde a une petite carte ou un ordinateur. Au-delà de 5000, la navigation de pêche ou de commerce, ou de plaisance, nécessite, sinon une carte papier, au moins un GPS. Aujourd'hui, je connais des gens à Nantes qui ont un GPS sur leur vélo.
Ah bon ?
Et oui, il y en a dans les voitures.
Oui, forcément.
Aujourd'hui, celui qui ne verra pas les éoliennes, je suis formel, hein.
Oui.
On peut me démontrer le contraire.
Allez-y.
Même partant de brume, celui qui ne verra pas les éoliennes sur sa carte papier ou sur sa carte ordinateur, il peut rester à cultiver ses pommes de terre dans son jardin. Ce n'est pas un marin, ce n'est pas un plaisancier digne de ce nom. Les éoliennes seront entre 7 et 8 milles des côtes. 7 et 8 milles des côtes. Ce n'est plus de la navigation côtière. Elles seront au large.
Et les flashs alors des éoliennes durant la nuit, ça ne va pas gêner la navigation non plus ?
J'ai le droit, heureusement que le ridicule ne tue pas. Vous ne croyez pas dans ce pays ?
Sébastien Chauvet, quelque chose à rajouter peut-être sur ce sujet de la pêche ?
Écoutez, donc ce parc concerne bien sûr les marins de l'Île-Dieu, mais pas seulement, les autres aussi. Donc il y a eu, au sein du comité régional des pêches, des débats. Le comité régional n'a pas émis d'avis de principe défavorable, mais nous attendons, je le dis encore une fois, les études d'impact pour se prononcer officiellement. Aujourd'hui, tout se passe bien. Nous sommes partenaires, pas partenaires, mais en tout cas, nous avons un niveau d'exigence pour l'acceptabilité de ce parc qui est fort, et on ne va pas brader les intérêts des pêcheurs en acceptant un parc comme celui-là.
Actuellement, donc, nous venons bien de dire qu'il y avait une possibilité éventuelle qu'il y ait des bateaux qui soient à Port-Joinville pour pouvoir assurer ensuite la maintenance. Évidemment, c'est quelque chose qui gêne les gens qui, instinctivement, comme ça, sont contre les éoliennes. Qui disent tous, mais non, c'est pas vrai, tout sera à Saint-Nazaire. Alors, comparaison les choses. Comparons, Saint-Nazaire est à peu près du début du parc à 50 kilomètres du nord du parc. C'est-à-dire, si on prend par rapport au sud du parc, à peu près une soixantaine dans des kilomètres. L'Île-Dieu, comme le port donc, de Larbaudière, sont à peu près à une distance qui est à peu près d'une sorte d'une quinzaine de kilomètres, quoi. 15, 16, 17 kilomètres, bon, etc. Le port de l'Île-Dieu est un port en eau profonde. Donc, pourquoi va-t-on mettre des bateaux qui seraient amarrés à Saint-Nazaire pour aller faire la maintenance alors qu'ils peuvent l'être beaucoup plus proches en étant sur l'Île-Dieu? Donc, je crois que là, il y a, pareil, une désinformation importante, quoi.
Et par rapport aux retombées économiques, alors, par rapport soit au démantèlement du parc, soit à l'entretien après les 20 ans ou...
Alors, je crois que là, effectivement, c'est un des points pour lesquels nous sommes quand même
très vigilants,
très vigilants, et nous l'avons rappelé, et c'est inscrit dans les conclusions des deux réunions de concertation que nous avons eues avec les préfets à Nantes.
Alors, en conclusion,
la délégation de l'Île-Dieu a insisté sur le fait que pour nous, ce qui était fondamental, c'est que si ce parc se faisait pour le bénéfice, je dirais, de l'ensemble de la collectivité nationale, c'est-à-dire produire de l'énergie qui soit une énergie propre, verte, comme on dit, ça pourrait permettre d'apporter à nos deux îles, l'île Dieu comme l'île de Noirmoutier, une ressource économique très importante en termes, entre autres, d'emploi. Puisque l'estimation qui est faite, c'est qu'il pourrait y avoir, pour la maintenance de ce parc, à peu près une cinquantaine d'emplois qui seraient des emplois permanents. Je passe sur les emplois qui seront nécessaires pour construire le parc pendant un certain nombre d'années, qui là seront extrêmement importants. Mais il y aura quand même une centaine d'emplois permanents sur l'ensemble des deux sites, quoi. Donc si ça nous permettait d'avoir à nous, sur l'Idieu, des emplois permanents qui pourraient s'occuper de la maintenance du parc, ce serait enfin des créations d'emplois qu'on pourrait comptabiliser sur l'Idieu suite à l'ensemble des pertes d'emplois qu'on a eues depuis un certain nombre d'années. Donc voilà un élément, effectivement, qui est extrêmement important.
Vous parlez sur l'île Dieu et aussi sur Noirmoutier.
Et sur Noirmoutier, bien évidemment.
Bernard Loisard, peut-être quelque chose à rajouter, oui.
Oui, je trouve que c'est un point important que vient d'aborder mon ami. L'emploi direct, ça, c'est les effets immédiats. Mais prenez tous les journaux spécialisés. Nous sommes au balbutiement de l'éolien en mer. Actuellement, il y a des grandes études, j'ai un dossier, parce que ce projet me plaît, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un projet qui va de l'avant. Moi, je suis pour, toujours, ce qui m'intéresse, c'est le long terme. C'est un projet à long terme que je suis depuis longtemps. Actuellement, en Norvège, dans les pays nordiques, on fait des éoliennes de très forte puissance. J'ai lu le chiffre tout à l'heure, de très forte puissance. Actuellement, on fait des éoliennes flottantes. Sur des pieux. Je pense que ce parc éolien au large de l'Île-Dieu va être le premier parc le plus important de France. Il apportera des retombées économiques sur l'Île-Dieu, fera parler l'Île-Dieu et permettra d'étudier l'éolien offshore. Car demain, dans quelques années, l'éolien en mer, mais alors au large.
Oui, enfin, ça existe déjà, non ?
Ça existe déjà, mais c'est en une phase d'étude actuellement qui se développe rapidement. Il y a beaucoup de réflexions, beaucoup d'études. Et je ne voudrais pas que notre département, que l'Île-Dieu, mette un frein à toutes ces études. Nous pouvons être un laboratoire pour demain. Et peut-être que si on en met en mer, on n'aura pas besoin d'en mettre autant sur la terre. Et on fera plaisir aux uns et aux autres tout en produisant. La mer, je vais terminer là-dessus, n'a pas fini de nous surprendre.
Sébastien Chauvet, je voyais tiquer en disant qu'il y avait déjà des éoliennes en mer.
Oui, des éoliennes en mer, il y en a. Bien sûr, la première a été implantée en 1991. Ce qu'il n'y a pas en mer, ce sont des éoliennes flottantes. Ça c'est du domaine de la du domaine de la recherche.
Et c'est quoi la différence entre mer et flottante ?
Des éoliennes flottantes, elles ne sont pas rattachées au fond par une fondation. Et toutes les autres qui existent en mer du Nord, bien sûr, elles ont des embases qui la relient au fond de la mer.
Bernard Grosard, oui ?
Oui, les éoliennes prévues au large de l'île seront posées sur le sol.
Posées
sur le sol. Il y a une étude pour savoir si elles vont être creusées, mais en général, la prévision, c'est posée. En mer, actuellement, il y a des études pour des éoliennes flottantes et qui sont ancrées. Qui seront ancrés par 4 ans, qu'il y a des parcs prévus, à l'étude actuellement. Mais nous sommes au départ d'une grande réflexion. Va-t-on continuer dans ce pays, là je fais de l'économie, à dépenser plus que nous avons ? L'économie est gratuite. Savez-vous que le parc éolien Lilieu, c'est l'équivalent d'une centrale nucléaire ? Mais on n'a pas acheté le vent. Et à l'Île-Dieu, on sait, vous savez, les thoniers, autrefois, ils marchaient à la voile. Ils ne descendaient jamais plus bas que l'Île-Dieu. Pourquoi ? Ils allaient vendre leur pêche en Bretagne, parce que de Yeux à la Bretagne, il y a du vent. L'endroit n'a pas été choisi au hasard, c'est un endroit opérationnel. Et je ne comprends pas l'acharnement contre ce projet, car va-t-on rester axé sur le passé ou va-t-on enfin s'ouvrir sur l'avenir ? Les économies nécessaires à faire par notre pays ne peuvent couvrir ce projet. Ceux qui sont contre, malheureusement, je vais le dire, sont passéistes.
Mais d'ailleurs, par rapport au vent, s'il y en a trop ou pas assez, les éoliennes fonctionnent quand même ou pas ?
Voilà, disons quoi, alors, il faut arrêter. Donc,
en mer,
il y a beaucoup plus de vent qu'à terre. Donc, les éoliennes tourneront à peu près 95% du temps, parce qu'à partir de 10 km/h, les éoliennes tournent. Par contre, après, ils tourneront à pleine puissance à partir de force 4, 5, 6. Mais quand il y aura des très très grosses tempêtes, bien sûr, c'est-à-dire une, deux, trois fois par an, elles ne tourneront pas, mais ça c'est pas forcément un handicap.
La production d'électricité, vous nous dites, sera toujours constante, on peut dire ça comme ça ?
Elle sera pas toujours identique,
ouais.
Parce qu'elle dépendra de la force dont du vent. L'intérêt de la production électrique ici tout près de chez nous, c'est que il y aura beaucoup moins de déperdition de la consommation d'électricité, disons dans le département dont la Vendée. Sait-on que quand en Vendée on utilise 1 kilowatt électrique, compte tenu que les centrales nucléaires sont assez loin, il faut qu'on produise au moins 2,5 de plus. C'est-à-dire qu'il y a un gâchis épouvantable entre la production électrique des centrales qui se trouvent à une centaine de kilomètres, 100, 150 kilomètres, et son utilisation. C'est-à-dire que sur les câbles, au fur et à mesure, l'électricité s'étiole. Donc on surproduit pour pouvoir consommer. L'intérêt, c'est qu'il y a une zone où, à part la centrale thermique de Cordemay, mais va-t-on défendre le charbon et le pétrole, hein, à part la centrale thermique de Cordemay, dont les cheminées d'ailleurs culminent au moins aussi haut que culmineront les futures dents éoliennes, il n'y a pas de production électrique dans cette partie ouest donc de la France, quoi, au niveau de la Vendée. Donc l'intérêt, c'est d'avoir une zone de production électrique à nos portes et qui permettra au département de la Vendée de pouvoir consommer, de pouvoir utiliser de l'électricité à un coût beaucoup plus faible. Et là aussi, je voudrais peut-être rebondir sur quelque chose qui est de la désinformation. On compare le coût de l'électricité produite en France en comparant le coût de l'électricité d'origine nucléaire avec, par exemple, le coût de l'électricité qui serait produite par le système donc éolien. Sait-on que dans le coût de l'électricité d'origine nucléaire en France, une grande partie des dépenses ne sont pas prises en compte. Si on prenait en compte, déjà si je prends les déchets nucléaires doivent être enfouis et sur un certain nombre de milliers, de centaines donc d'années, ce coût-là n'est pas à charge de l'EDF. Sait-on aussi que le commissariat à l'énergie atomique qui sert de laboratoire pour toutes les recherches, l'ensemble des coûts du commissariat n'est pas pris en compte non plus dans la production d'énergie nucléaire. Donc en fait, cette énergie éolienne, les recherches actuellement économiques qui sont faites, ne sont pas plus coûteuses en réalité pour le budget national que ne coûte l'énergie nucléaire. Alors, je crois que là, il faut tordre le coût aussi à certaines désinformations qui sont donc données.
Sébastien Chauvet, quelque chose à rajouter avant de se dire au revoir, peut-être ?
Oui, je voudrais quand même, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'insulaires, beaucoup d'îlets ont été choqués par la photo présentée dans le journal du Conseil Général de la Vendée récemment. Donc cette photo est un vulgaire montage grossier et il ne reflète en rien le futur parc. Et cette photo tient plus de la désinformation, du mensonge, de la manipulation que d'informer véritablement les gens. Je le dis parce que on ne me fera pas de procès. Sur la photo montage du Conseil Général, le parc est positionné plein ouest, à moins de 10 km de la pointe du but. Bon, en réalité, le parc sera positionné plein nord, à plus de 14 km de la pointe. Donc, c'est pas du tout la même chose. Sur la photo montage du Conseil Général, les éoliennes sont très rapprochées les unes des autres, sans véritable plan de pose. C'est un peu le fouillis, on essaye de faire peur, on a l'impression qu'on a mis 120 parts pourrites au large pour faire peur aux gens. Le parc sera au contraire bien organisé. Il y a une étude paysagère. Et d'ailleurs, les gens vont pouvoir bientôt voir un film qui a été fait par une société de cinéma pour montrer aux gens où sera ce parc et quelle vision nous en aurons. Et ça, c'est très important. Donc je veux simplement dire que le groupe WPD vient à Lille-Dieu le 26 mai prochain devant le conseil municipal, le conseil du comité local et ainsi que le conseil économique et social local, donc ça fait quand même beaucoup de gens, présenter les conclusions des études d'impact, c'est-à-dire les études d'impact sur les oiseaux, la pêche, le courant, la navigation,
etc. Ils seront disponibles au public ou pas ?
Attendez, j'y viens.
D'accord.
Et véritablement, nous présenterons un petit peu en avant-première ce film d'animation. Bien sûr, WPD souhaite faire des réunions publiques un peu avant l'été et durant l'été pour à la fois les insulaires et les touristes. Et je veux dire, tout ça se fait dans une grande transparence. Les gens qui veulent vraiment avoir des informations sur ce projet peuvent le faire au travers d'un site internet qui a été ouvert depuis des mois, justement pour que les gens puissent de chez eux voir un petit peu les enjeux de ce projet. Et simplement, je dirais que la position dogmatique du Conseil Général est grave. Je pense que ce n'est pas, le Conseil général n'a pas fait une erreur, mais une faute, parce qu'on ne peut pas désinformer les gens et surtout manipuler l'opinion publique comme ça. Je trouve ça purement scandaleux.
Alors, les résultats d'impact, ce sera disponible au public ou...
mais bien sûr, je viens de le dire à l'instant. Tout sera bien sûr mis à disposition des gens le temps venu, bien sûr.
Bernard Goisard, quelque chose à rajouter, peut-être, avant de se dire au revoir ?
Moi, je souhaite que ce parc se fasse, parce qu'à première vue, ça peut apporter un petit plus à notre port. On a la pêche qui souffre, on a la chance d'avoir de la plaisance, des passagers, du cabotage. J'aimerais que le port ait une nouvelle composante, la maintenance. Si c'est quelques emplois, de l'activité portuaire en plus, c'est donc le poumon de Pau-Joinville qui vivra, notre île vivra. J'en serais très heureux.
Et Michel Charvois, on te dit au revoir.
Simplement, j'ai donc relevé dans cet article du journal du Conseil général un certain nombre de mensonges assez forts qui parlent d'une ligne à haute tension qui défigurera le marais breton, alors que ce sera fait par souterrain. Donc, je vois pas vraiment comment une ligne souterraine défigurera le marais breton. On parle d'enfoncer dans le sol 744 000 tonnes de béton, alors qu'elles seront posées. Ce seront des embasses qui seront posées sur le sol. Encore une fois, on trompe donc les gens. On parle de fortes modifications des courants, alors que dans les deux réunions que nous avons eues avec le préfet maritime et le préfet de Vendée, il est affirmé par le préfet maritime que ce n'aura pratiquement aucune influence sur la longue distance concernant les courants, impact sur la faune, alors qu'on relève que les ailes des éoliennes se transformeront en ennemis mortels pour les oiseaux. Cela fait énormément rire le maire de Bouin, qui n'a pas vu un seul oiseau tué par ces éoliennes depuis qu'elles sont mises sur son sol, et on parle que les vibrations feraient fuir les poissons. Or, c'est exactement l'inverse qui se passe en mer du Nord. Donc, est-ce que la mer du Nord serait donc si différente de l'océan, quoi? C'est-à-dire que c'est un ensemble de mensonges, c'est un tissu de mensonges. Tout ça, le seul but, c'est de faire peur aux gens. On veut faire peur aux gens de l'Île-Dieu, de Noirmoutier et de la Vendée. On les empêche d'avoir une réflexion calme, posée, pour voir quel est le vrai du faux. Et ce que nous essayons dans nos associations, c'est de voir quel est le vrai du faux, quel est le vrai du faux, et d'informer les gens en toute vérité. Actuellement, ce qui est fait sur ce dossier par le Conseil général, c'est faire peur aux gens. Je pense que les gens seront beaucoup plus intelligents qu'on ne le croit.
Ça sera le mot de la fin. Merci Sébastien Chauvet, secrétaire du comité local des pêches de l'Île-Dieu.
Oui, merci, bonsoir à tous.
Bernard Groisard, ancien marin-pêcheur, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et Michel Charvois de l'association Lieu Demain, merci beaucoup.
Je t'en remercie.
On se retrouve dès demain dans Je vous dis pas. Autre sujet d'actualité, le passage au tout numérique arrive en Pays de Loire le 18 mai prochain. On en parle plus en détail avec Jean-Yves Abi. À demain, bye bye.
Réagissez et posez vos questions sur antenne@neptunefm.com.